Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Il le dit lui-même à chaque fois qu'on l'interviewe, c'est pour parler de Dutron qui lui a mis le pied à l'étrier, de Claude François qui lui a trouvé son pseudonyme mais avec lequel ça ne s'est pas toujours très bien passé, et de Gainsbourg qui lui a écrit son immense succès Manu Reva et avec lequel ça s'est terminé un peu en coup de poisson. Eh bien, c'est promis, on ne lui posera aucune question ni sur Manu Reva, ni sur Dutron, ni sur Claude François, ni sur Gainsbourg. D'abord parce qu'on l'a fait la dernière fois, il y a 9 ans, quand il est venu nous présenter l'album qui portait son nom en toute simplicité. Ensuite, parce que l'album pour lequel il revient ne sera de toute façon pas un album comme les autres. Alors c'est toujours le cas des derniers albums quand on est un artiste, sauf que là c'est le 16e et que c'est vraiment le dernier, c'est-à-dire l'ultime album d'Alain Chamfort. Il s'intitule L'impermanence et il est plein d'émotions, toujours, de pudeur et d'élégance, encore et toujours. Il est disponible chez Piace BMG et vous m'en direz des nouvelles.
Après la vague reste l'écume. Après le concert, les costumes. Après l'amour, une amertume. Dur d'être après ce que nous fûmes. Après Vinci reste le bitume. Après le pollen, un gros rhume. Après l'AVC, un légume. Nous ne fîmes que ce que nous pûmes. Et nous voilà là, au cœur de la nuit. Et nous voilà là, sur fond d'insomnie. Rejoins nos vies. Et nous voilà là, au cœur de la nuit. Et nous voilà là, nus et démunis. Nous demandons si. Après Boris reste l'écume. Après le naufrage, la brume. Après l'attentat, le volume. Dur d'être après ce que nous fûmes. Après la vie reste le posthume. Après la boucherie, la coutume, la queue, les oreilles et les plumes, nous ne fîmes que ce que nous pûmes. Et nous voilà là, au cœur de la nuit. Et nous voilà là, sur fond d'insomnie, rejoins nos vies. Et nous voilà là, au cœur de la nuit. Et nous voilà là, nus et démunis, nous demandant si.
Fort.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous. Alone, c'est le titre de cette chanson qui est au cœur, non pas de la nuit, mais au cœur de l'album, puisque c'est le 6e des 11 titres. Une chanson belle, poétique, noire, un peu inquiétante aussi dans une atmosphère. Et à travers aussi ces mots, elle résume bien votre état d'esprit aujourd'hui.
Oh, elle ne fait pas que résumer mon état d'esprit, elle résume une humeur par laquelle il m'arrive de passer. Mais comme toutes les chansons de l'album, c'est des petites photographies de pensées comme ça qui surgissent de temps en temps et qui sont qui font place à des questionnements, quoi.
Oui, vous avez toujours eu tendance comme ça à rejouer votre vie.
Je pense que ça s'est fait un peu naturellement, sans le décider véritablement de manière très consciente, mais il me semblait que c'était toujours nécessaire d'avancer, de ne pas refaire ce qu'on avait déjà fait, et d'essayer d'aller chercher l'envie, et d'essayer d'exprimer tout ça le plus justement possible. Donc, c'est vrai, c'est une façon de se remettre en question, qui je trouve, qui me semble obligatoire, quasiment.
L'envie, justement, vous avez toujours eu envie d'avoir envie, pour paraphraser Johnny.
C'est indispensable. C'est indispensable, et que c'est pour ça que je laisse passer quelques années, généralement, entre des albums.
Mais vous n'êtes pas un boulimique d'albums.
Parce que c'est pas ma façon de fonctionner, quoi. J'ai besoin de laisser de la place. Sortir d'un album, après on fait des tournées, on est là à chanter tout le temps ces trucs et tout. Et à un moment donné, j'ai besoin de me nourrir de tout ce que la vie offre en dehors de la musique. Quoi.
Alors, autre question que l'on entend dans ce titre, à l'aune de quoi estimer nos vies? Est-ce que vous avez trouvé une réponse déjà à cette question? Non. Quelle est la toise?
C'est compliqué parce qu'on a toujours l'impression d'avoir fait des choix. Évidemment, et quand on fait des choix, on en laisse d'autres de côté.
Vous avez des regrets?
Non, c'est pas des regrets, c'est des questions. Est-ce que je me suis toujours bien comporté? Est-ce que, vous savez, d'un seul coup, vous êtes pris la nuit comme ça, ça arrive à tout le monde. Et à un moment donné, les idées vous traversent l'esprit et vous maintiennent dans un état d'insomnie.
Mmh. En gamberge.
Il faut faire avec, quoi. Donc, c'est souvent dans ces moments-là qu'on est face à soi-même et à voir que le temps a passé, voir que voilà que c'est, il en reste moins que celui qui est passé, et que il semble naturel de se poser ces questions, tant qu'on peut encore intervenir sur les choses. C'est jamais trop tard, quoi.
Oui, vous avez réussi votre vie, on peut le dire, d'ores et
oui,
déjà.
Ouais. Non, oui. Mais je veux dire, honnêtement, je pense que j'ai vraiment pas souffert. J'ai eu la chance de pouvoir faire une activité sans me poser la question de la remettre en jeu à un moment donné, parce que, voilà, j'ai toujours pu faire de la musique, ce qui était la chose la plus naturelle pour moi. Et puis, de pouvoir en vivre, de pouvoir faire vivre ma famille avec ça, et de ne pas être obligé d'abandonner la musique pour une autre activité. Donc déjà, professionnellement, c'était très agréable. Et puis après, j'ai eu la chance aussi d'avoir une vie plutôt heureuse, avec des jolies rencontres, avec des gens qui m'ont entouré. J'ai reçu beaucoup d'amour de la part de mes parents, de la part de mes amis, de mes compagnes, enfin voilà, de mes enfants, enfin... Je serais vraiment pas très juste de me plaindre, quoi.
Alors, je l'ai dit, cet album, disponible chez BMG, est le dernier Alain Chamfort. Qu'est-ce qui vous a fait prendre une telle décision? Dernier album.
Plusieurs raisons. La première, c'est que je mets du temps avant de faire mes albums. Que le précédent, qui s'appelle « Deux heures des choses », a eu un très bon accueil. Et déjà, quand on s'est mis au travail sur celui-ci, on se disait, on espérait qu'on n'allait pas décevoir par rapport à l'album précédent. Il y avait une attente. Qu'il fallait la satisfaire. Donc, on savait que c'était un travail important. Et en même temps, j'observais que les gens écoutent de moins en moins d'albums. Alors, je me disais, c'est bien gentil de passer autant de temps à essayer de faire un truc.
Tout ça pour ça, vous étiez en quelque
sorte. Oui, pour l'arrivée, on va entendre trois titres, le reste, ça va être acheté, tout le monde s'en fout. Bon, à un moment donné, à quoi ça sert, quoi? Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de continuer à faire cette activité de manière un peu plus insouciante, sans pour autant ne pas le faire bien, quoi? Je veux dire,
oui. Mais il n'est pas question pour vous d'arrêter de chanter, d'arrêter les concerts, d'arrêter d'écrire des chansons et de les partager.
Non, là, c'est ça, c'est de faire travailler d'autres supports, quoi. Effectivement, j'ai eu l'occasion de le faire avec Sébastien Tellier, là, un petit EP de 4 titres.
Mini-album, oui.
Mini-album, c'est amplement suffisant pour proposer quelque chose qui se tienne, et ça peut apporter autant de plaisir aux gens. Et on peut renouveler ce genre d'expérimentation beaucoup plus facilement et plus régulièrement qu'un album. Voilà, ça. Et puis... Puis je préférais faire un album, le concevoir comme étant le dernier, l'annoncer exactement comme étant le dernier, et avoir une thématique qui soit lié et qui clôt un chapitre. Voilà, voilà, c'est un peu le choix que j'ai fait, quoi.
Il en est de l'amour comme des saisons, de la lumière du jour comme des poissons. Tout ce qui peut nous paraître immuable se révèle hautement instable. C'est la cause du bonheur, de la souffrance, c'est le mal et les fleurs, l'impermanence, l'impermanence. C'est une violence en permanence, l'impermanence. Il en est de la plus frêle fourmi, comme de la plus lointaine galaxie, des pyramides qu'on pense inaltérables, jusqu'au tout dernier des portables. C'est la cause de nos peurs et notre essence, c'est le mal et les fleurs, l'impermanence, l'impermanence. En permanence, c'est une violence en permanence. C'est pour ça que l'on pleure et que l'on danse, c'est le mal et les fleurs, l'impermanence, l'impermanence, en permanence. N'est-ce pas une chance quand on y pense, l'impermanence?
L'impermanence, c'est cette chanson qui donne son titre à cet ultime album, Alain Chamfort. Comment ce mot vous est-il venu ?
Alors, c'est un mot qui provient, en tout cas, la première fois que je l'ai lu, c'était en consultant des livres qui traitaient de la religion bouddhiste. Voilà, et je trouvais qu'il y avait une espèce de résonance en moi, à l'époque, en disant, tiens, effectivement, si on considère que les choses sont faites pour être tout le temps... en mouvement, que la vie est basée sur ces principes-là, qu'il faut accepter sans pour autant être, comment dire, fataliste, ce qui vous arrive, mais on peut essayer de repousser les échéances quand il nous arrive quelque chose, trouver une solution, etc. Bien sûr, c'est pas arrêter de se battre, mais c'est considérer que de toute façon, bien, une chose, on remplacera une autre, quoi. Les choses sont tout le temps en mouvement, que ça sert à rien de vouloir les retenir, les posséder. Les choses sont faites, quand je dis les choses, c'est de manière générale, sont faites pour être transmises, pour circuler entre les gens, que ça soit l'argent, les idées, les sentiments, enfin, et la matière, enfin, tout est, la matière est en mouvement tout le temps. La matière est constituée d'atomes, ça bouge tout le temps. Et donc, rien n'est figé comme on peut l'imaginer. Et à partir du moment où vous intégrez ça dans un concept quelque part, dans vous, eh bien, ça peut vous aider par moments à accepter certaines difficultés qu'on traverse tous, et qui, voilà, c'est un principe, hein, mais je veux dire, il peut être secourable par moment, quoi.
Alors, vous le dites, hein, dans la chanson, l'impermanence rime avec violence, mais aussi avec chance. C'est peut-être encore plus vrai pour un artiste. Est-ce que la fragilité, le côté éphémère, c'est une force pour un interprète?
Bien, en tout cas, ça l'oblige à en tenir compte. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est toujours ça que j'ai fait. Ça entretient le doute, ça retient l'obligation d'être... de ne pas décevoir.
Douter, c'est important?
En ce qui me concerne, c'est primordial. Je veux dire, si je doutais pas, je pense pas que j'aurais fait ce trajectoire-là. Quoi. Le doute, il est constant. Et en même temps, vous avez une espèce d'intuition qui vous permet de faire des choix. C'est particulier, quoi. L'intuition, elle prend le dessus. À un moment donné, il y a le doute, puis vous devez vous décider. Donc, instinctivement, vous êtes porté plutôt à faire ce choix-là que d'autres. Pour quelle raison? Je ne sais pas vraiment l'expliquer, mais j'ai fonctionné comme ça tout le temps, quoi.
Tout va de travers, mais pas de vagues dans mon verre aux mille reflets verts d'une liqueur de la chartreuse. Doux est le calvaire, vieillir est une blessure sévère, mais profond est le bleu d'envers de nos piscines langoureuses. Attendre à bras ouverts, me laisser glisser vers l'apocalypse heureuse, paré pour l'apocalypse heureuse.
Apocalypse heureuse.
Tout mon corps recouvert par le corps découvert d'une tendre amoureuse, paré pour l'apocalypse heureuse, l'agonie radieuse.
L'Apocalypse heureuse, c'est ce titre qui ouvre votre dernier album, Alain Chamfort. Alors certes, hein, l'Apocalypse est donc heureuse, l'agonie elle est radieuse, vous êtes paré et vous l'attendez à bras ouverts. Ce disque a quand même un petit côté crépusculaire, non?
Oui, bah oui, je l'avoue.
Même les fleurs qui sont sur la cover, elles sont un peu défraîchies. Hein.
Ah, vous trouvez, vous?
Ah oui.
Disons que on souhaite cette fin la plus radieuse possible. Voilà, et... c'est un souhait, hein, je veux dire, et de partir dans une extase heureuse, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à tout le monde.
Hein. Alors justement, on sent, c'est vrai, d'un titre à l'autre de l'album, cette tonalité qui relève, je ne sais pas si l'expression vous convient, d'une forme de sérénité mélancolique. C'est un peu un oxymore, mais ça vous va
Oui, ça me va, et en même temps, je trouve qu'il y a toujours de la lumière. Il n'y a pas une chanson vraiment qui plombe, quoi. Il y a des questionnements, mais... Il y a toujours aussi, puis l'album est équilibré. Là, on n'a passé vraiment que les chansons les plus...
Voilà.
Mais
il y
a des chansons plus rythmées, plus légères, etc. Et je pense que c'est un voyage, quoi. Quand on est dans une écoute d'album, et c'est comme ça que je les conçois, c'est des alternances d'humeur, d'émotions, et que, comme quand on voit un film, il faut ressortir un peu, avoir été touché, un peu ému, puis un moment un peu léger, voilà, c'est...
Question d'équilibre, encore une fois, voilà. Et d'harmonie pour
totalement.
Référence à la musique et à la philosophie bouddhiste que vous évoquez
bah
vous-même
oui,
tout
bien
à l'heure.
Sûr, oui.
Recherche d'harmonie.
Absolument.
C'est Jean-Dominique Burgot hein, qui
Pierre-Dominique Burgot,
comme ça que vous le surnommez d'ailleurs, qui signe tous les textes de cet album, sauf un. Tout oui. s'arrange à la fin. Celui-ci a été voilà, c'est plutôt pas mal pour terminer. Hein. Tout s'écrit donc tout s'arrange à la fin, écrit par Jacques Duval qu'on connaît bien puisque vous il était avec vous la dernière fois qu'on vous a reçu dans ce studio.
C'est mon ancien, enfin mon ami de toujours et qui était mon auteur pendant une vingtaine d'années. Et voilà, qui s'est mis un peu à l'écart de l'écriture, mais c'est pas grave.
Et donc il revient pour cet ultime album.
C'est pas la joie. Parfois la vie est brutale. Les ennuis pleuvent sur moi. J'avoue, l'averse me fait mal. Mais pour autant, je ne perds pas confiance en ma bonne étoile. Je me dis, tout s'arrange à la fin. Quand ça devient trop dur, je peux m'appuyer sur cette idée qui me rassure. Tout s'arrange à la fin. Ça semble simple et sans doute ça l'est. Mais j'y crois même si c'est basé sur rien. Quand c'est trop la crise, quand mon cœur se brise, je ressors ma devise. Tout s'arrange à la fin. Oui, tout s'arrangera. Si ça ne s'arrange pas, je me dis c'est que c'est pas encore la fin. La tempête peut me secouer, la nuit peut me tourmenter. J'ai cette carte secrète à jouer, j'ai ce refrain à chanter. Ce n'est que de la méthode couée, mais plutôt que de me lamenter, je me dis tout s'arrange à la fin. Quand ça devient trop dur, je peux m'appuyer sur cette idée qui me rassure. Tout s'arrange à la fin. Ça semble simple et sans doute ça l'est. Mais j'y crois même si c'est basé sur rien. Quand c'est trop la crise, quand mon cœur se brise, je ressors ma devise. Tout s'arrange à la fin. Oui, tout s'arrangera. Si ça ne s'arrange pas, je me dis c'est que c'est.
Tout s'arrange à la fin, la voix et la musique de notre invité Alain Chamfort dans VMDN sur RFI et les paroles de Jacques Duval. Pourquoi est-ce que vous avez toujours confié vos textes à des paroliers, Alain Chamfort?
Parce que j'ai la lucidité de savoir que je ne suis pas capable d'écrire des textes de cette qualité-là. Et j'ai été, j'ai très vite imaginé que ce que j'écrivais à travers la composition, à travers la musique, procédait un peu de la même manière et transmettait aux gens ce que moi j'entendais de la musique. Et j'ai jamais travaillé l'écriture à proprement dit. Donc, dès que j'ai compris que j'étais pas très entraîné pour ce genre de choses, je suis allé au-devant de gens dont je savais qu'ils faisaient très très bien.
Ça veut dire que ces paroliers-là parlent mieux de vous que vous ne le sauriez faire vous-même ?
Exactement. Non, c'est fou, mais c'est vraiment ça.
Alors, comment ça se passe, l'écriture d'une chanson entre Pierre-Dominique Burgot ou naguère Jacques Duval et Alain Chamfort?
Non, avec les deux, avec Duval et Pierdot après, ça s'est passé exactement de la même manière. Ce sont des gens qu'on s'est approchés, ça a pris du temps.
Apprivoisé.
C'est apprivoisé, voilà, on s'est approchés, on s'est découvert, on s'est trouvé des points communs, on s'est trouvé des envies communes, et puis petit à petit, des amitiés sont nées, ce qui permettait de vraiment de converser d'une manière totalement dégagée, sans avoir peur de la façon dont ça a été reçu, etc. Et d'avoir des conversations très profondes ou très légères, etc. Mais toujours avoir un vrai échange et ne convenir que d'être totalement vrai l'un avec l'autre. Voilà.
Ce sont des amis, des complices, des confidents?
C'est tout, exactement.
Psychanalystes?
En partie.
Des confesseurs, peut-être?
Oui, enfin, disons que, vous savez, on parle de tout, de sujets très graves, de sujets très légers, des sujets amusants, on commente ce qui se passe à droite, à gauche, mais en tout cas, on livre beaucoup de soi en faisant ça. Et après, ils piochent. Quand je leur donne des musiques qui reviennent vers moi, ça a toujours été par rapport à des choses qui avaient été échanger entre nous. Mais on ne travaille pas. Il n'y a pas de notion de se mettre côte à côte et dire, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur cette musique. Ouais. Non, ils reviennent vers moi directement avec les idées.
Ne serait-ce qu'une fois, hélas. Ne serait-ce qu'un instant fugace. Les mains sales, les ongles pleins de crasse. Aurais-je su toucher la grâce? Ne serait-ce même qu'en surface, avec le bout de la godasse, comme on pousse une vieille carcasse, aurais-je su toucher la grâce? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Aurais-je sans la voix cherché, parler d'eux en parlant de moi? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Trouver la part d'humanité qu'on a tous indifféremment. Ne serait-ce que des masses tabassées par la vie qui tabasse. Aurais-je su fondre la glace, trouver une voie dans les congères jusqu'au cœur de mes congénères, avant que je tombe en disgrâce? Aurais-je effleuré cette grâce?
La grâce, c'est le dernier titre de votre ultime album, Alain Chamfort, avec donc ces derniers mots en forme d'interrogation. Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Trouver la part d'humanité qu'on a tous différemment? Et ce doute, ce souci, cette inquiétude du créateur, vous le partagez avec nous, évidemment, mais aussi avec d'autres artistes dans le clip qui accompagne la chanson, clip réalisé par François Guttgeber, qui est allé vous filmer, vous et quelques autres, dans ce moment de grâce, qui est donc le moment de la création, de l'écriture d'une chanson. Alors, il y a du beau monde, hein, ils sont une petite vingtaine quand même. Ouais. Vous les avez choisis comment, alors, ces autres artistes?
C'est des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration, d'amitié, et comme il s'est révélé qu'ils avaient autant la même chose à mon égard, qu'on a pu monter ça assez facilement. Ils se sentaient concernés par le sujet de la chanson, et puis ils ont accepté d'une manière très très spontanée et très gentille de se prêter au jeu, d'être filmé, voilà.
Alors, il y a Souchon, vous le dites, Juliette Armanet, Dominique A, Jean-Louis Aubert, Serge Resvani, Kerena, Adamo, Cabrel, Dao, Miossec, Violet, Jeanne Chiral, Bertrand Ballon, on n'a pas le temps de tous les citer, c'est absolument
Julien Clerc
impressionnant.
Aussi.
Julien Clerc aussi, absolument. Alors, au début du clip, on vous voit, vous, Alain Chamfort. D'abord, il fait nuit. C'est la nuit que vous composez?
Non, n'importe quand, mais là, c'était le soir.
Voilà, tout simplement. Dans la pièce, alors je ne sais pas si c'est vraiment votre chez vous ou bien si c'est un décor.
Non, c'est
pour
chez Pierre-Dominique Burlou.
Bon, il y a une commode à tiroirs, il y a une table avec un ordinateur, il y a des chaises et tout au fond, il y a une bibliothèque. Qu'est-ce qu'il y a dans votre bibliothèque, Alain Chamfort?
Oh là, moi, il y a tout ce que j'ai cumulé comme écrivain, auteur, toute ma vie. Ouais, beaucoup, beaucoup de gens. Vous vous rendez compte?
Vous êtes un grand lecteur, hein, d'ailleurs.
J'ai lu, je lis certainement beaucoup moins que d'autres, mais j'ai toujours aimé lire. Et voilà, donc je m'intéresse à la littérature et aux grands auteurs. Donc les livres, on les accumule, on les collectionne. Et puis à un moment donné, ça fait des grandes bibliothèques, quoi. Oui.
Alors, il y a les livres, il y a la musique, évidemment, il y a un piano droit hein, devant lequel vous vous installez. Et contre le piano est posée une guitare. Bon, vous êtes un claviériste, hein, d'abord.
Oui, 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 je suis un pianiste.
Un chanfort. Alors, et quand on regarde le clip, vous faites trois choses avant de vous installer au piano. Premièrement, vous jetez un œil à votre téléphone portable. Il vous sert à prendre des notes
Oui, absolument.
Il joue un petit rôle dans la composition.
Ah ben, totalement, c'est un dictaphone. Je l'utilise comme garde-mémoire de ce que j'écris. Voilà, c'est un espèce de, c'est devenu un réflexe quoi. Maintenant, c'est tellement simple. Voilà, donc comme ça, on garde ça, ces petites idées comme ça rapidement.
Voilà. Donc vous pianotez sur votre téléphone. Ensuite, vous buvez une rasade dans votre mug. Thé, oui. Café, infusion.
Là, c'est de la tête, je sais pas. Plutôt une infusion, c'est là.
Plutôt une infusion, voilà. Et puis trois, vous jetez un œil dans le miroir. Qu'est-ce que vous voyez dans,
ah bon,
dans le miroir
à ça.
Ah, oui. Ah si, si, je vous assure, dans le clip.
Ah d'accord,
vraiment,
ouais, c'est possible.
Allez voir à nouveau le clip. Ah, vous regardez vous-même votre image dans le miroir.
Si l'ennemi est toujours là.
À quoi elle ressemble, justement? L'ennemi de la glace,
ouais. Bah ouais, il faut toujours se méfier. Hein, parce que l'image qu'on envoie de soi dans un miroir, oui. Elle n'est pas toujours... quand même. Enfin, il faut savoir l'interpréter, surtout.
Oui, mais c'est important l'image quand on est un artiste, quand on
oui,
partage
en tout cas,
soi-même
faut pas,
avec le public.
Il ne faut pas que ça devienne un souci.
Oui. Vous en
majeur.
Êtes toujours méfié un peu.
J'ai toujours essayé d'être un peu discret par rapport à ça. Et en même temps, il faut être respectueux à l'égard des gens et faire attention à la manière dont on se présente. Oui, je trouve.
Alors le problème quand on annonce la sortie d'un album qu'on nous annonce comme le dernier, c'est qu'on est tenté de regarder dans le rétroviseur et d'écouter les albums précédents. Je ne vous cache pas que c'est un petit peu ce que j'ai fait. Mm-hmm. Alors j'ai dit qu'on parlerait ni de Manu Reva, ni de Gainsbourg, ni de Claude François. J'ai noté quand même quelques titres de chansons qui m'ont suggéré des questions. C'est juste des petits clins d'œil. Ouais. Hein. Vous venez d'ailleurs d'en faire un vous-même en évoquant l'ennemi dans la glace, justement, ouais. Donc ça tombe très bien. Par exemple, Alain Chamfort, il est comment le monde vu du ciel?
Eh bien, c'est la question qui était évoquée. Alors, attendez, parce que j'ai le texte, c'était comment il s'appelait cet auteur? Un garçon qui avait travaillé pour Obispo. C'est comme ça qu'on l'a découvert. On avait demandé, c'était pour une vente de disques qui servait à la recherche contre le sida à l'époque. Et on avait demandé qu'à des auteurs concernés, c'est-à-dire séropositifs, d'écrire des chansons parce qu'ils étaient beaucoup plus proches de ce qu'ils avaient envie d'exprimer. Et sur ce texte, Vu du ciel, Vu du ciel, c'est la manière dont on nous observe en haut, de nous envoyer de temps en temps des signaux pour justement se remettre en question. Voilà, un décès, peu importe, enfin, une jolie surprise et tout, et considérer comme non pas un hasard, mais quelque chose qui est le résultat peut-être de votre comportement. Ou de ce que, voilà, là, c'est une manière de toujours rester un petit peu en lien avec un au-delà. Quoi.
S'il n'y avait qu'un géant, Alain Chamfort, ce serait qui, le géant?
La question que je me posais, c'était est-ce que j'avais cette image à l'égard des enfants que j'ai eus? C'est-à-dire, notamment, la disproportion quand on est enfant et qu'on regarde son père, il paraît gigantesque, il paraît une protection absolue, une confiance, on se jette dans ses bras, on est sûr d'être recueilli et d'être entouré, d'être protégé. Enfin, c'est vraiment ce qu'il faut représenter pour ses enfants, c'est sûr.
Arrive le jugement dernier, on vous donne rendez-vous au paradis. On pouvait évidemment que c'était impossible de ne pas évoquer cette question. Alors pour paraphraser Bernard Pivot, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire au paradis?
Alain Chamfort. Je t'ai attendu longtemps.
Et si je peux me permettre de vous tutoyer, Alain Chamfort, avant de se quitter, que faudra-t-il garder comme trace de toi?
Écoutez, d'avoir en tout cas un travail honnête. Quoi. J'aime bien ce côté-là, ce côté un peu artisanat, d'avoir fait les choses avec envie, avec... oui, avec une forme d'exigence, je dis ça toujours ce mot, c'est peut-être un peu prétentieux, mais vouloir faire les choses bien, quoi. Et ça, c'est quelque
chose... Un homme de bonne volonté, vous êtes un homme de bonne volonté.
Ouais, en tout cas dans le travail, je trouve que c'est nécessaire, parce qu'on laisse des choses qui sont là pour durer, bien après vous, même si, je pense pas à la postérité, mais je veux dire, c'est figé, c'est quand même, ça va rester au-delà de moi, quoi.
Merci, merci beaucoup Alain Chamfort d'être passé nous voir. Vous serez en concert en Belgique le 4 juin à l'AB Club de Bruxelles, le 18 juillet au Francophonie de Spa et le 6 décembre au Cirque Royal de Bruxelles, et puis bien évidemment en tournée française, notamment à Paris le 6 juin au point éphémère le 2 décembre au Trianon et dans l'intervalle le 14 novembre à Lille, le 16 à Senon, c'est pas très loin de Bordeaux, hein, Senon, le 21 à Aix-en-Provence dans le sud-est, le 22 à Nice, le 28 à Brest en Bretagne et le 30 retour dans le sud-ouest à la Teste de Buch. Allez, on se quitte avec un petit whisky glace pour trinquer avec modération évidemment avec vous et Sébastien Tellier, un titre qui est d'ailleurs entré en playlist RFI récemment.
Le sens-tu le calme avant la tempête, le silence trop profond pour être honnête. Un parfum qui traîne de kérosène. Le sens-tu le calme avant la tempête, le poids de l'air qui appuie sur nos têtes. Un pressentiment que c'est imminent. Hey, en terrasse, autour de whisky glace. Avant la défaite, triste cotillon de fin de la fête. Un parfum dans l'air, d'heure dernière. Cet instant parfait avant la comète, le chant des oiseaux qui soudain s'arrête. Une certaine idée d'éternité. Hey, en terrasse, on tourne au whisky glace.
Whisky glace, Alain Chamfort et Sébastien Tellier sur RFI.
C'est l'heure de Café Polar.
Café Polar, vous le savez, c'est toujours assez noir, c'est toujours assez sombre, sauf que le Café Polar de cette semaine, Catherine Fruchon-Toussaint, il est éclairé par des bougies d'anniversaire. Bonjour.
Bonjour Jean-François, bonjour à toutes et à tous. Et oui, je vous propose de fêter un anniversaire, la 20e édition de Quai du Polar qui s'ouvre demain à Lyon pour 3 jours exceptionnels. Alors pour rappel, cette manifestation littéraire aujourd'hui d'envergure internationale a vu le jour en 2005 et depuis, c'est vraiment devenu le rendez-vous incontournable des écrivains du monde entier et surtout qui attire tous les ans un public mais enthousiaste, nombreux, plus de 90 000 personnes l'an passé. Et ce sont des amateurs qui viennent non seulement de toute la France mais aussi de l'étranger. Bref, c'est un succès que l'on doit à une équipe formidable avec à sa tête Hélène Fischbach, directrice de Quai du Polar et qui était déjà là il y a 20 ans, toute jeune collaboratrice. Je l'ai donc rencontrée pour vous et je lui ai demandé comment Lyon était-elle devenue l'écrin de ce festival et s'il y avait un lien entre la ville et le genre.
Alors oui, il y avait quand même une identité assez particulière à Lyon. Il y avait Frédéric Dard, il y avait l'image des films de Chabrol, de Tavernier. Enfin, il y avait... Et puis cette image un peu brumeuse des quais de Lyon, c'est vrai qu'il s'y prêtait plutôt bien. Et puis on s'est rendu compte en programmant le festival année après année qu'il y avait aussi des institutions avec lesquelles on travaille aujourd'hui qui étaient très liées aussi au Polar. Alors on travaille avec Interpol qui a son siège européen à Lyon. On travaille avec la police scientifique qui a aussi une antenne nationale à Lyon. On travaille avec la l'école de police de Saint-Cyr au Mont-d'Or, qui est vraiment l'école nationale des policiers. Donc c'est vrai qu'il y avait quelque chose, en tout cas une atmosphère aussi un peu particulière à Lyon. Et puis le lien s'est fait en fait dès le début avec ces institutions culturelles qui ont aussi beaucoup joué le jeu de la manifestation. On travaille avec l'Institut Lumière, on travaille avec les musées. Enfin, c'est une ville qui est très ouverte aussi pour ce type d'événement.
Donc 20 ans plus tard, Quai du Polar est toujours à Lyon et le rendez-vous a prouvé que ce genre avait toute sa place dans le monde littéraire. Ça a toujours été le cas d'ailleurs, Catherine ?
Eh bien, pas vraiment. Ça n'a pas été si évident au début. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que le Polar se vend très bien. 15 600 000 exemplaires en 2023, ce qui n'est pas rien. Aujourd'hui, c'est vraiment l'un des secteurs les plus dynamiques dans l'édition, avec aussi une émergence des auteurs français assez spectaculaire, là où avant, c'était les anglo-saxons qui dominaient le palmarès. Et ce changement, Quai du Polar en a été le témoin, comme s'en souvient Hélène Fischbach.
Oui, c'est un genre qui a énormément évolué. Nous, c'est vrai que quand on a démarré la première édition, on sentait quelques réticences, et notamment même de la part des libraires qui n'étaient pas très ouverts au genre. Il y avait quand même une petite réticence. C'était un genre, d'ailleurs, beaucoup travaillé en presse et par les éditeurs avant l'été. C'était des livres qu'on lisait pour l'été, des choses assez légères. Et ça, je pense que ça a quand même beaucoup évolué. Il y a quelques titres, je pense, quelques auteurs qui ont fait évoluer le genre. Alors, je pense à Millennium. On a fait d'ailleurs avec Babelio, un petit recensement des livres qui ont été les plus aimés par les lecteurs ces 20 dernières années. Et c'est vrai que Millennium arrive en premier, donc il y a vraiment eu un après, je pense. Et ça a ouvert à de nouveaux lecteurs, je pense, qui ont découvert le genre, qui avaient une idée un peu préconçue de ce genre. Puis il y a une vraie évolution du polar français, surtout ça, c'est vraiment la grande évolution depuis 10-15 ans, je dirais. C'est vrai que nous, les premières éditions, les festivaliers venaient vraiment en priorité rencontrer les auteurs étrangers. Et là, on se rend compte qu'il y a un engouement qui est quand même assez incroyable pour les auteurs français, et que le genre s'est complètement renouvelé, quoi. Les auteurs, le genre, les catalogues des éditeurs, enfin, il y a un vrai renouveau du genre depuis une dizaine d'années, je dirais.
Oui, un genre en pleine forme, donc, avec des auteurs français en pleine puissance, de Fred Vargas à Michel Bussy, en passant par Franck Tillier et Bernard Minier, pour citer ceux qui vendent le plus. Autre écrivain français qui, lui aussi, est très apprécié du public, Caryl Ferret, que vous aviez reçu il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, Catherine, pour son roman Okavango, qui se déroule sur le continent africain.
Oui, c'est un écrivain voyageur que l'on aime beaucoup ici à RFI, parce qu'il sillonne tous les continents. Et c'est un fidèle de Quai du Polar, puisqu'il était là dès la toute première édition, et il revient quasiment chaque année. Mais pourquoi, Caryl Ferret ?
En fait, c'est le meilleur festival du monde. Et je le dis à la fois de manière ironique, mais aussi en vrai, parce que j'étais notamment à Jaipur, qui est soi-disant le plus grand festival du monde en nombre de gens. Il y a 600 000 personnes. Sauf que tu signes aucun bouquin. Et ils te disent, si vous voulez un livre, il y a la boutique Amazon qui est là, en fait, et qui sponsorise. Donc pour moi, c'est pas le plus grand festival du monde. Et Quai du Polar, ça c'est... Quand tu vois 150 personnes qui font la queue pour entrer dans un festival pour acheter des livres, franchement, c'est hyper émouvant. Même les lecteurs, quand on fait des pauses en dehors du palais, quoi, y a des lecteurs qui sont là, en fait. Et donc, tous les lecteurs peuvent rencontrer leurs auteurs préférés, entre guillemets, et puis tailler le bout de gras pendant 3 minutes, ou même prendre un café à côté, parce que tout est en proximité, en fait. Donc, il y a un côté où tout le monde est ensemble. Et ça, c'est vraiment l'esprit du polar. Et le Festival de Lyon, je trouve qu'ils ont réussi à avoir complètement cet esprit-là, malgré le fait qu'il y ait 135 auteurs, etc. C'est un énorme truc. Mais ça reste toujours friendly, unique au monde.
Caryl Ferret qui présente aussi ce week-end son nouveau livre intitulé « Le Steve McQueen », co-écrit avec l'anglais Tim Willox. C'est une tradition à Lyon depuis quelques années. Deux auteurs pour un polar. Ce sont les éditions Point qui pilotent cette série, où à chaque fois l'intrigue se déroule à la fois à Lyon et aussi dans le pays natal de l'autre écrivain. Et c'est toujours très réussi.
À propos d'auteurs étrangers, Catherine, quels sont les grands noms attendus à Lyon cette année ?
Alors, c'est tout simplement la crème du crime, avec pour la première fois Denis Lehane, Cet Américain à qui l'on doit de grands romans noirs, dont Shutter Island, entre autres adapté au cinéma avec Leonardo DiCaprio. Présent aussi John Grisham, l'auteur de La Firme, qui sur grand écran avait été interprété par Tom Cruise. N'oublions pas le Norvégien Jo Nesbø, la Brésilienne Patricia Melo, et même la première ministre islandaise, oui, Katrín Jakobsdóttir, sera présente puisqu'elle s'est également mise à l'écriture de polar.
Ah oui.
Et donc, en tout, ce sont 135 écrivains du monde entier, d'une quinzaine de nationalités, qui sont attendus à ce festival, devenu unanimement la référence du genre, au point que même le format de Quai du Polar fait école dans de nombreux pays, comme l'explique Hélène Fischbach.
Oui, ça fait des années, effectivement, qu'on travaille avec, alors notamment avec l'Institut français, avec l'idée justement de valoriser le polar français à l'étranger. C'est vraiment aussi une mission que s'est donnée Quai du Polar depuis quelques années. Et on accompagne des auteurs français sur différents événements à l'étranger. Alors on a eu l'occasion d'aller à Palerme, d'aller à Leipzig, à Bombay aussi avec des auteurs français. Et on travaille vraiment dans cette idée que le polar français a vraiment une patte, quelque chose qu'on peut vraiment valoriser à l'étranger. Donc on est vraiment en lien avec beaucoup d'événements à l'étranger pour ce travail. Et il se trouve que la ville de Lyon, alors cette année, a reçu un nouveau label, qui est un label de l'UNESCO, ville de littéraire. Et c'est un réseau de villes dans le monde qui s'intéresse aux livres. Donc on va nous vraiment travailler avec ces villes aussi pour voilà, créer des liens, tisser voilà, des nouvelles relations, faire voyager évidemment les auteurs, c'est aussi l'idée. Et puis aller chercher des idées aussi à droite, à gauche dans ces différents événements.
Voilà un aperçu du programme qui vous attend à Lyon ce week-end avec, je le rappelle, cette édition historique de Quai du Polar qui souffle ses 20 bougies. Vous trouverez sur la page du podcast de Café Polar un lien vers la manifestation avec en détail tous les lieux, tous les événements, toutes les rencontres. Vous allez voir, c'est phénoménal et c'est aussi pour cela d'ailleurs que RFI est partenaire de la manifestation.
Votre invité demain dans Littérature sans frontières, annoncez-le nous, Catherine.
Eh bien, je reçois justement l'un des invités d'honneur de Quai du Polar, l'écrivain américain John Grisham, cet auteur américain qui a écrit donc La Firme il y a 30 ans. Il vient de publier la suite, ça s'intitule Le Réseau et ça se déroule en partie en Libye.
Quant à nous, nous recevrons l'écrivaine, photographe et documentariste Oswald Lowat pour son film MK, l'armée secrète de Mandela, qui raconte une histoire assez peu connue. Hein, et c'est une histoire vraie, évidemment, c'est vraiment un documentaire historique. L'histoire de la branche armée de l'ANC, le Congrès national africain, qui a lutté contre l'apartheid à partir des années 1960. Un film à découvrir très bientôt sur Arte. Voilà, dans une poignée de secondes, le journal en français facile sur RFI. À demain et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.